Donc moi je vais prendre, je vais pas faire le même exercice du coup, c'est, je vais partir sur la demande que m'a faite Elisabeth, qui était dans le cadre de la conclusion, mais de pas forcément faire cet exercice de conclusion qu'a très bien fait Catherine, mais plutôt de partir de mon histoire, ma propre trajectoire, plutôt comme deuxième génération de cette équipe. Et voilà, à partir de là, de resituer un petit peu cette histoire de l'Idéric dans ce parcours et dans ma propre histoire avec ça. Et donc, de ce fait, évidemment, profiter pour exprimer ma reconnaissance de ce point de vue-là et de rendre hommage à ces chercheurs de l'Idéric qui ont guidé mon parcours intellectuel. Ça a été rappelé par plusieurs personnes, je tiens vraiment à le dire, de Michel Auriol, que j'ai eu comme enseignant en arrivant, et donc ça a été un des premiers enseignants de psychologie sociale, de Jocelyne, qui m'a formé comme sociologue travaillant dans le domaine des relations interethniques, de Victor, de Philippe Poutinien, de Marina, de Jean-Pierre, de Lise, qui ont beaucoup contribué à ma formation comme chercheur à partir de cette équipe. Donc l'Idéric, pour moi, de ce point de vue-là, c'est d'abord, alors Marina en a fait allusion rapidement tout à l'heure, c'est d'abord un appartement situé au boulevard de la Madeleine pour les Niçois. Un appartement fumé dans lequel il y avait énormément d'activités intellectuelles, beaucoup de personnes affairées à différentes recherches collectives. Hein, c'était vraiment ça l'ambiance. C'était donc dans la première partie des années 90, avec effectivement dans cet appartement Jocelyne et Philippe qui travaillaient sur ce qu'allait devenir les théories de l'ethnicité. Victor qui travaillait sur les Argonautes de Nice Village, Jean-Pierre qui commençait une recherche sur une recherche action sur le développement de l'université de Nice Sophia Antipolis, Marina qui travaillait avec Michel Auriol sur les Portugais en France, et aussi dans la pièce d'à côté Robert Nicolaï qui travaillait sur le développement d'un logiciel, du logiciel Mariam. Donc j'étais à cette époque étudiant en licence de sociologie et on devait produire un projet de recherche qui était censé être encadré par une équipe des sociologues du laboratoire de sociologie de l'université qui n'est pas l'Idéric. L'Idéric était très mal identifié par les étudiants. Hein. C'était pas sur l'université, on les connaissait pas, on ne connaissait pas cette équipe. Donc, mémoire de recherche devait plutôt être encadré par le laboratoire de sociologie et consistait à travailler sur une enquête quantitative qui portait sur les modes de vie des étudiants de l'université de Nice. Et on était plusieurs, on était quatre dans cette promotion, à ne pas vouloir rentrer là-dedans, à ne pas être forcément intéressé par ces perspectives et devoir faire un travail de codage des questionnaires réalisés sur le mode de vie des étudiants. Et on était plutôt attirés par des enquêtes ethnographiques qui portait, ce dont on a parlé hier, des enquêtes ethnographiques qui portaient sur les mouvements régionalistes de Françoise Morin, de Pierre-Jean Simon, différents types d'enquêtes un petit peu partout en France, sur les phénomènes migratoires encore peu étudiés, etc. Et c'est comme cela qu'on s'est retrouvés à l'Idéric pour travailler, pour ma part, sur l'histoire de l'immigration hongroise en France. Puis ensuite à faire un DEA et un doctorat avec Jocelyne sur le lien entre relégation urbaine et ethnicisation des relations sociales à partir d'enquêtes ethnographiques donc menées dans un quartier périphérique de Nice. Et après ça, donc, j'ai pu participer également à des recherches collectives menées au sein de l'INERIC avec Philippe et Joy sur le traitement syndical du racisme, avec Marina sur la circulation migratoire à partir d'une enquête sur les migrants entre Menton et Vintimille, notamment. Alors, durant ces années-là, ces années de formation, j'ai été particulièrement marqué. Alors, comme le disait Catherine, il n'y avait pas percé à l'époque. Mais j'ai été vraiment particulièrement marqué grâce à Joy d'ailleurs, qui nous avait fait faire un stage dans la bibliothèque de l'Ibéric pour travailler notamment sur les références bibliographiques. Et j'étais particulièrement marqué par ce fonds documentaire de l'Ibéric, et en particulier parce qu'on pouvait y trouver d'ouvrages, de notes de lecture, de compilations de textes de la sociologie de Chicago, qui était vraiment très 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 présente dans ce fonds. Alors non seulement bien sûr marqué, comme l'ont été beaucoup de sociologues de ma génération, par ces différents documents qui invitaient à développer un type de démarche empirique qui renvoie au fieldwork, permettant donc de travailler sur des cours d'action, sur l'ethnographie, l'analyse de situations sociales ordinaires, etc., mais aussi parce que ces documents ont permis de découvrir une autre sociologie américaine que la sociologie fonctionnaliste, structuro-fonctionnaliste, et renvoyant plutôt à l'héritage du pragmatisme social de John Dewey, de Mead, que on voyait d'ailleurs dans les cours de Michel Auriol. Et d'où à partir de là un travail spécifique qui a pu être mené sur la construction sociale des problèmes publics, approche donc qui s'appuie très fortement sur cet héritage du pragmatisme social depuis la sociologie de William Thomas jusqu'à celle de Joseph Gusfield notamment. Et dans cette lignée pragmatiste, le problème public est plus que le produit d'un simple étiquetage collectif, c'est vraiment l'idée d'une activité collective en train de se faire. Et donc là, cette notion d'activité qu'on voit notamment hein, dans le rapport de Daniel Berthaud en 76, hein, c'est cette idée de retrouver cette activité qu'on trouvait chez Immelt, qu'on trouvait chez Thomas, etc., et qui avait été figée dans les glaces du structuralisme, comme disait Berthaud dans son rapport. Donc était vraiment extrêmement présente dans ces documents qui étaient là dans cette bibliothèque de l'Ibéric. Et activité collective par rapport aux questions, aux problèmes publics, dont on peut effectivement restituer les différentes phases de sa carrière, etc. Donc une insistance sur cette notion d'activité. Et c'est à partir de ce type d'approche qu'on peut s'intéresser à la question de la mobilisation des valeurs dans la construction des problèmes publics, mais aussi dans la manière de construire et de faire durer, de maintenir des barrières morales entre les habitants d'un même quartier, par exemple. Il s'agissait donc de travailler plutôt sur les usages sociaux des valeurs à partir d'une approche descriptive plutôt que normative, comme cela s'est développé dans les travaux plus récents de l'école de Chicago. Je pense en particulier à la sociologie urbaine d'Elisa Anderson et à son observation des frontières entre les hommes noirs ayant acquis une respectabilité morale aux yeux de la communauté et les jeunes noirs du quartier étudié à Philadelphie qui évoluaient à l'époque dans le monde de la drogue. Et pourquoi je mentionne ces questions-là ? Parce qu'il me semble qu'il y a là un héritage intellectuel qui passe par une certaine lecture de l'école de Chicago et qui est au sein de l'Ibéric, avec Joyce, avec Philippe, avec plusieurs personnes, puis au sein de l'URMIS, avec notamment l'arrivée d'Elisabeth, a contribué au développement d'une certaine approche de la sociologie qualitative et de l'ethnographie urbaine dans laquelle je pouvais me retrouver. Donc, il s'agit d'une sociologie descriptive plutôt que normative, d'une sociologie du public, centrée sur l'espace public, l'attention publique, les arènes publiques, etc. Plus ou pas seulement d'une sociologie critique. Et cette distinction renvoie du coup à différentes controverses dans la sociologie générale, controverses qui ont bien été analysées d'ailleurs récemment dans le livre qui vient de sortir de Nathalie Hennig sur son travail sur les valeurs, mais que l'on rencontre aussi dans les différents débats concernant l'ethnographie urbaine et l'analyse des questions d'appartenance ethnique et raciale, des questions d'altérité, etc. Premier débat sur la sociologie urbaine distingue l'émergence d'une sociologie urbaine qu'on pourra appeler critique et cet héritage de l'école de sociologie urbaine de Chicago. Distinction qu'on retrouve, qui est déjà signalée dans les années 70 par Gerald Suttles, qui parlait d'approche normative et d'approche situationnelle, et qui a pris la forme d'une controverse, notamment, entre Loïc Vacan et Elise Anderson, après la sortie de son livre Code of the Street, en 2003, je crois, où, pour Vacan, Anderson distingue les résidents du ghetto entre les bons et les mauvais, les décents et ceux qui traînent dans les rues, au lieu de dénoncer les effets de l'ordre néolibéral américain sur la production des ghettos, des inégalités raciales, etc. Et contre cette approche de Vacan, Anderson défend le choix d'une ethnographie inductive en soulignant l'importance d'une pratique de recherche qui autorise à forger des concepts et autorise de s'appuyer sur des cadres d'analyse qui émergent du terrain, comme notamment le rappelait Victor aussi hier. Et d'une certaine manière, cette polarisation entre approche normative et approche situationnelle, on la retrouve aussi dans le débat académique sur la nécessité ou pas de faire une distinction analytique entre race et ethnicité, polarisation qui prend par exemple la forme d'une critique faite récemment par Andreas Wimmer de l'approche normativement centrée sur la race telle qu'on la trouve dans les travaux américains de Eduardo Bonilla Silva, par exemple. Donc, pour terminer, il se trouve que, et pour terminer sur maintenant et sur l'avenir, à partir de ça, il se trouve qu'on est en pleine rédaction du futur projet scientifique de Jurmis, et que cette polarisation, qui était très présente à l'époque de Lidéric, et qu'il est toujours aujourd'hui au sein de Jurmis, hein, c'est vraiment quelque chose qui traverse cette histoire, hein, cette polarisation entre une sociologie analytique descriptive et une sociologie plus critique, plus normative, sur d'un certain point de vue, mérite d'être mise en avant, questionnée, discutée, notamment pour montrer ce qui était dit tout à l'heure, hein, comment il est possible, et en tout cas d'essayer de réfléchir sur les manières d'articuler ce lien entre les effets de la structuration sociale et la prise en compte des activités sociales dans les travaux qu'on peut mener. C'est en tout cas une des pistes réflexives qui traverse donc cette histoire de Lidéric et sur laquelle je souhaitais insister donc à partir, encore une fois, de ma propre expérience. Merci.